Marceau le matin.
418-971-1021, 418-971-1021, si vous avez des choses à nous dire, il se passe quoi que ce soit sur la route. Dans les dernières minutes, Pompière-la-Porte, il y avait énormément de trafic à cet endroit-là, énormément de retard à prévoir ce matin.
Ouais, perte de chargement de pneus, il y en aurait une vingtaine selon des auditeurs. Henri IV Sud, hauteur boulevard Laurier. Donc, voie de droite bloquée, voie de gauche partiellement entravée. L'accès à l'autoroute par boulevard Laurier, ça serait partiellement entravé aussi. Fait que le temps qu'on va ramasser les pneus et tout ça, ben il y a de la congestion à prévoir. Présentement, ce qu'on nous dit, c'est que sur Henri IV Sud, c'est entre boulevard Wilfrid Hamel et boulevard Laurier que c'est au ralenti. Sinon, 40 Est, hauteur du kilomètre 298 dans le coin de Saint-Augustin-de-Desmaures, il y a un accident qui cause certains problèmes. Toujours compliqué de passer de la rive sud à la rive nord. Là, fait que les ponts direction nord, c'est pas une situation qui semble vouloir s'améliorer. Et à Capitale-Ouest, entre Destimoville et un peu passé Laurentienne au rouge.
Excellent papier dans la presse d'hier de Luc Laliberté qui parle du fameux Zoran Mamdani qui est un peu sorti de nulle part là, au Québec. Pas grand monde qui connaissait ce gars-là il y a de ça quelques mois. Et depuis ce temps, ben, il est sur les lèvres d'un peu Monsieur et Madame Tout-le-Monde. On en parle avec Luc Laliberté. Salut Luc!
Ouais, bonjour Yannick.
Merci d'être là. Qui est ce Zoran Mamdani et pourquoi il fait tant jaser?
Ah, c'est le phénomène politique. J'ai envie de te dire, mais c'est plus ou moins honnête, c'est le descendant direct. C'est la version 2025 de ce qu'était Bernie Sanders en 2016.
Oh.
Donc, déjà, en le campant là, je vous le mets au plan politique, surtout dans un contexte américain, on le met vraiment sur la gauche. Quand on parle de progressiste, c'est un gars qui s'assume pleinement. Et là-dessus, c'est très fidèle comme portrait. Il est très près de ce que défendait, de ce que défend encore Bernie Sanders. Pourquoi on en parle? Tu le disais, parce qu'on ne l'a pas vu venir. Il y a eu des primaires démocrates cette année, parce que pour se présenter aux élections, chaque parti, Parti républicain, le Parti démocrate, c'est un peu comme pour la présidence. On a des primaires, on arrête un candidat, et ensuite on va en élection. Et Mamdani est arrivé de nulle part et s'est imposé devant de gros noms. Le maire sortant, le maire Adams, qui a eu de très, très nombreuses controverses, qui a même eu une grâce présidentielle de Donald Trump, un démocrate qui obtient une grâce du président, ça se vend mal auprès des démocrates ensuite. Donc, le maire Adams est devenu indépendant. Il y a Andrew Cuomo, l'ancien gouverneur, qui lui aussi a quitté son poste dans une controverse. Lui s'est d'abord présenté chez les démocrates. Et la grande surprise, ça a été que parmi tous les candidats, Mamdani s'est imposé et loin devant l'ancien gouverneur Cuomo, qui jouit d'une très, très grande notoriété. Et Cuomo est présentement son adversaire comme indépendant pour la mairie de New York. Donc, il y a ça. C'est un personnage qui est charismatique. Que ce soit vrai ou pas, les gens trouvent qu'il est authentique. Il s'agit d'aller voir sur YouTube, on a une foule de discours là, de Mamdani. Le gars est un excellent orateur. On n'en voit pas souvent de bons orateurs comme ça. Puis tu as envie de le croire quand il te parle. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a fait. Et surtout, Mamdani a compris quelque chose qui a échappé à beaucoup de démocrates, je pense, depuis quelques années. C'est qu'entre la théorie, entre des discours universitaires, entre voici comment ça se passe dans le monde et la vie de tous les jours, Mamdani a compris que la première chose qu'on devait faire en démocratie, ça a l'air évident, mais il faut le faire, c'est d'aller sur le terrain et d'écouter les gens. Et ce qu'il dit dans ses discours, c'est le reflet de ce que beaucoup d'habitants de New York considèrent. Et quand on dit donc qu'il est très à gauche, c'est vrai, parce qu'il financerait ce qu'il propose à partir de l'argent des contribuables, à partir des impôts, mais il va demander, par exemple, du transport en commun gratuit. Il va demander un gel de certaines catégories de logements, de loyers. Il veut des logements sociaux. Il veut avoir des épiceries gérées par la ville de New York.
Oh.
Et l'idée, c'est que ce qu'on lui rapporte sur le terrain, c'est ça n'a pas de sens. Le coût de la vie, la gestion de l'économie. Nous, on voit souvent New York comme touriste, puis c'est spectaculaire, c'est gros, mais on oublie souvent que New York est une des villes les plus inégalitaires aux États-Unis et dans le monde, que les écarts entre les très, très, très riches et le reste de la population, même pas les pauvres. Je ne sais pas quel est votre salaire, messieurs, mais j'ai pas les moyens de vivre à Manhattan. J'ai même pas les moyens de vivre dans le Queens ou à Brooklyn.
Moi non plus, Luc.
Ben voilà, donc, et j'ai pas les moyens d'y vivre. Si jamais j'y allais, j'aurais un petit 1,5. Donc, j'y vais même pas en famille. Donc, les gens font remonter vers le haut, on étouffe. Et l'écart, et ça c'est vrai, les statistiques le disent, et l'écart entre les très, très riches et tout le reste de la population... Je répète, on parle même plus d'écart entre riches et très pauvres. c'est les riches et le reste de la population. Donc, Mme Dany a dit, OK, c'est de ça dont je vais vous parler. Donc, c'est ça qui fait jaser. Et en plus, non seulement ça vaut pour New York, mais on a des démocrates actuellement au plan national qui se cherchent. Le Parti démocrate, les gens disent souvent, écoutez, c'est terrible ce qui se passe. Comment ça se fait qu'on les voit pas, les démocrates? Ils savent pas, entre guillemets, puis je vulgarise, ils ne savent pas où se tirer, littéralement. Et là, on se dit, est-ce qu'on va encore faire des campagnes à la Joe Biden? C'est-à-dire qu'on va faire campagne au centre ou au centre-droit. On oublie que Barack Obama a gagné comme candidat. On le mettait à gauche, mais c'était une campagne centre-droit. On dit, est-ce qu'enfin on va aller vers ce qu'a demandé Bernie Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez? Est-ce qu'on peut gagner en étant vraiment progressiste, mais plus populiste, plus près du terrain? Donc, là, on va surveiller ce que fait Mme Dany. Et on va essayer de voir si ensuite on peut reproduire ça à l'échelle du pays. Moi, je pense que c'est une très, très grosse bouchée. Mais on le surveille, Mme Dany. Et au moment où on se parle, il y avait un débat hier soir, d'ailleurs, où Cuomo s'est pas gêné pour... Le républicain, en fait, personne n'en parle. C'est M. Sliwa qui est le fondateur des Guardian Angels, pour ceux qui connaissent le mouvement. Là, c'est quelqu'un qui est là depuis une éternité. Mais donc, le républicain, il va chercher à peu près 19 % dans les sondages. Mme Dany est au-dessus du 40 % puis Cuomo va chercher un 19, 20, 22 % lui aussi. Donc, en fait, les deux opposants de Mme Dany se divisant le vote, il est nettement en avance. Et le prochain maire de New York pourrait très bien être un des élus les plus progressistes de l'histoire américaine. Et c'est tout ça qui fait jaser.
Ouais. Les gens le voient, peu importe si ces gens-là ont des idées un peu plus à gauche ou à droite, ils le voient comme étant un gars qui va améliorer leur qualité de vie. Puis tu me parles de populisme, là, tu sais, moi le populisme, ouais. J'ai jamais vu ça de façon négative, là, parce que quand on parle de populiste, souvent j'écoute les discours, pis c'est souvent ce que monsieur et madame tout le monde me mentionnent, alors ce voilà. Qu'on vit dans notre quotidien, si ça c'est du populisme, ben si les politiciens ça s'intéressent à ce que nous on veut, je trouve ça très pertinent, mais au niveau du deuxième étage, des fois ils pensent pas toujours comme nous autres. Là, le populisme de Mme Dany, ça c'est un bon populisme?
C'est-à-dire qu'il utilise la même recette que Donald Trump ou les républicains ont utilisé.
Mais ça, on le voyait de façon péjorative, là.
Oui, ben ça dépend. C'est-à-dire que moi, je fais toujours la distinction entre les deux. Si on se donnait un cours, je te dirais, si on vit en démocratie, là, préparez-vous, parce que la démagogie, dire aux gens ce qu'ils souhaitent entendre, là, on joue sur les émotions, on va les flatter ou on va leur faire peur, on récupère les émotions, mais le populisme, s'intéresser à ce qui inquiète vraiment les gens dans le quotidien, à ce qui les préoccupe, ça vient avec la démocratie. Oui. Ben écoute, la démocratie, on l'oublie tout le temps, hein. C'est souvent un des défauts de la démocratie. Ça part du bas vers le haut, normalement. Mm-hmm, ouais. Pas du haut vers le bas. Et ça, peu importe ce qu'on peut penser de ce que Donald Trump a fait après, ou les républicains, ils ont bien récupéré toutes les tendances. L'immigration, par exemple, ils ont compris bien avant les démocrates qu'on pouvait gagner les élections là-dessus. Les gens étaient ébranlés, les gens étaient plus insécures, on craignait hein, l'arrivée surtout de migrants illégaux. Ben, on ne s'est pas gêné là, pour jouer la carte extrême sur l'immigration pour que le message qui en ressorte, c'est « faites-nous confiance, Biden, les démocrates, c'est des mous, nous, on va être des purs et durs ». Maintenant, les mêmes Américains trouvent que Trump est peut-être trop dur, finalement. Quand on regarde les sondages, on se dit « c'est pas tout à fait ça qu'on voulait ». Mais le message de base, c'était « l'immigration nous inquiète ». Donc, quand on dit que Mme Dany est un populiste, moi, je pense que c'est le béaba de la démocratie. Si tu veux représenter des gens, ben, il faut que tu représentes les sujets de préoccupation et dans leur quotidien. Mm-hmm. On regardait, par exemple, c'est flagrant dans les sondages, Donald Trump s'implique à l'international. Il a jasé avec Zelensky, il va parler avec Poutine. Il s'est beaucoup, beaucoup impliqué pour Israël, la Palestine, la bande de Gaza. Mais ça lui rapporte rien en politique intérieure parce que ce qui inquiète les Américains au moment où on se parle, c'est il semble que tout coûte plus cher. Le gars qui se lève ou la femme qui se lève, la mère, le père de famille qui se lève pour aller travailler le matin, c'est combien ça me coûte pour aller à l'école? Est-ce qu'on a des bons services? Est-ce qu'on a assez pour manger? Où est-ce qu'on coupe dans le budget pour arriver à la fin du mois? On va se préoccuper, puis c'est bien normal, de ça bien avant le sort des Ukrainiens ou la stratégie de Vladimir Poutine. Donc, Mme Dany est intervenue dans ces dossiers-là en disant qu'il faut aller chercher les gens là où ils sont puis leur parler de leurs préoccupations. Et je répète, ça devrait être l'évidence. Mais parfois, les démocrates, c'est pas qu'ils sont dans l'erreur ou que c'est faux, mais on est, quand tu disais l'étage au-dessus tout à l'heure, on a l'impression d'un prof, puis désolé pour les profs, j'en suis un, mais on a l'impression d'un prof qui explique la théorie. Mais ce qu'on veut, c'est du vécu.
Exact.
Et un bon prof va faire de la pratique aussi et du terrain. Donc, les démocrates, finalement, sont de mauvais profs. C'est qu'on ne va se limiter qu'à la théorie sans aller les rejoindre sur le terrain.
Dans le cas de Mamdani, bon, c'est un individu qui sort de nulle part. Il est très en vogue. Quand on écoute ses discours, c'est un bon orateur. C'est quelqu'un qui s'exprime bien. Il semble être près des gens. Est-ce que tu me parles dans ton papier, Luc, La Liberté, dans le Journal de Québec, tu me parles d'un gars comme étant ambitieux. Est-ce qu'il va progresser dans les prochaines années au point de pouvoir aller sur les paliers supérieurs? Est-ce qu'il pourrait être pressenti un jour pour être candidat à la présidentielle?
Le premier test de Mamdani, puis je veux pas avoir l'air de le condamner pour ceux qui sont plus à gauche dans vos auditeurs, ça va être le test de la réalité. Moi, je pense qu'il a de très bonnes chances de gagner, surtout si les Républicains n'abandonnent pas. Si on continue la division du vote pour les centristes ou la droite, je pense que Mamdani peut se retrouver à la mairie. Maintenant, son programme est effectivement très ambitieux et surtout très coûteux. Peut-être qu'il y en a plus à droite qui nous écoutaient et qui disaient, écoute, le transport en commun gratuit ou les épiceries gérées par l'État ou le gel des loyers, il va prendre ça où, cet argent-là? Donc, le discours là-dessus est plus classique. On va aller chercher les grandes compagnies, on va aller chercher les individus les plus riches, ce qu'on appelle souvent le 1%.
Ouais.
Mais ça reste une très, très grosse bouchée à prendre. Et au-delà du financement, ce qui est déjà un questionnement légitime de la part des habitants de New York, c'est comment on met ça en œuvre? J'ai échappé ça vite tout à l'heure hein, dans l'énumération. On a parlé d'épicerie gérée par l'État. Ça a déjà été essayé. Parfois, ça réussit et parfois, c'est un échec. Uh-huh. C'est quoi ça, une ville qui gère? C'est une coop? C'est comment on met ça en œuvre? Qui va le travailler?
Crée-tu un organisme? Comment je fais
Là? L'idée, bien sûr, d'une épicerie gérée par la ville ou par un État éventuellement, l'idée, c'est le contrôle des prix. C'est de baisser notre marge de profit, notre marge de manœuvre, qui est déjà pas très importante dans certains milieux d'alimentation, mais c'est de jouer là-dessus, sur les coûts des employés, puis sur les coûts pour dire, ben vous allez être capable de manger à prix plus abordable, parce que on a le même phénomène aux États-Unis que chez nous. Quand je regardais jamais ma facture d'épicerie avant, c'est pas que je suis millionnaire, parce que ça allait de soi. Maintenant, c'est comme, oh! Vous l'avez vu, là, l'été, le barbecue, vous avez peut-être fait moins de bœuf cet été.
Écoute, mon Luc.
Hey, Luc, c'est la même réalité pour les Américains.
Ouais. Luc, à plus grande échelle, parce que là, les démocrates voient nécessairement un sauveur, mais à plus grande échelle, est-ce que être aussi progressiste et aussi à gauche permettrait de déloger les républicains de la Maison-Blanche? Parce que je fais juste penser à la ceinture de fer aux États pivots, puis je me dis... Hey boy, tu mets un gars comme ça à la course à la présidence, pas grand-chance de gagner les États pivots.
Dans le cas
là.
De Mamdani, il pourrait monter gouverneur, mais il pourrait pas être président des États-Unis parce qu'il est né au Ouganda.
En effet, mais dans le terme de courant politique, là, je regarde le courant politique qu'il amène, qui est le même que Bernie Sanders. Est-ce que ce courant politique-là peut vraiment passer à l'échelle des États-Unis pour déloger les républicains?
Ça, c'est le principal casse-tête des démocrates et c'est pour ça qu'ils surveillent autant Mamdani. Moi, je vous ramène quelques années en arrière. 2016, on a Bernie Sanders qui est venu très près de déloger Hillary Clinton. Mm-hmm. On sait ensuite que ça a été un mauvais choix. Ça apparaissait, je pense, pour la majorité des gens comme le choix le plus safe ou le plus sécuritaire que d'aller vers Hillary Clinton. Mais combien de gens on a déçus qui ont voté pour Donald Trump parce qu'ils auraient préféré voter pour Bernie Sanders, parce qu'ils considéraient que Sanders et Trump, c'était un peu les outsiders, les gens qui étaient à l'extérieur de la machine, qui les écoutaient. Parce que Sanders n'est pas un démocrate, c'est un indépendant.
En effet.
Donc, on a dit, ces gens-là nous écoutent, ces gens-là sont près de nos préoccupations, on a l'impression qu'on ne peut pas les acheter. Je résume rapidement, mais donc, les démocrates se disent, est-ce qu'on est arrivé à ce moment où on va « all-in » à gauche? Moi, j'ai de sérieuses réserves. C'est ce que j'écrivais hier dans mon texte, puis tu l'évoquais bien, Jean-François. Quand on regarde les États pivots, on va encore avoir à la prochaine élection, là, à moins d'un raz-de-marée, d'un mouvement extraordinaire, mais c'est tellement polarisé que ce serait étonnant, on va avoir 5 ou 6 États à la présidentielle qui vont faire toute la différence. Donc, est-ce qu'on peut gagner dans des swing states, là où c'est très polarisé, puis où ça se décide dans un mouchoir de poche, le nombre d'électeurs? Est-ce qu'on va gagner à gauche? On a gagné, puis on a gagné vraiment avec une belle marge sous Joe Biden. Et Biden, malgré ses nombreux défauts puis une fin de carrière en queue de poisson, Biden était un bon stratège politique. Ce qu'il était tout là à la fin, ça, c'est un autre débat. Mais Biden avait compris que les élections aux États-Unis, dans les États pivots, les États très démocrates, là, ils iront pas voter. La Californie n'ira pas républicain parce que tu as quelqu'un de progressiste, et New York non plus. Mais si tu te tournes vers les États pivots, la Géorgie, par exemple, qui a penché dans le cas démocrate le temps au moins d'une élection, puis où les démocrates ont de meilleures assises, est-ce que tu les gagnes en étant plus à gauche, les habitants de la Géorgie? Ou si tu joues encore centre-centre-droit? Ouais.
Écoute, moi, je pense au Michigan, je pense à Pennsylvanie. Oui. Oh.
Voilà. Voilà. Écoute, j'imagine très mal, par exemple, même Denis, en dehors des grands centres comme Philadelphie. Parce que même dans des États qui ont souvent voté démocrate, on a quand même ce clivage entre les grands centres urbains. Il y a bien sûr les banlieues, ce qu'on appelle les banlieues, puis les zones rurales. Et souvent, ça va se décider dans les banlieues. Est-ce que les banlieues sont prêtes, là, quand on regarde qui habite là, quels sont leurs revenus, est-ce qu'elles sont prêtes à aller, les banlieues, très à gauche? C'est comme ça qu'on va découper nos résultats puis qu'on va calculer. Donc, la question que vous me posez, c'est la question qu'ont les démocrates. Et il y a un phénomène particulier. Les républicains, parfois, sont divisés entre eux où il y a des ailes, mais des factions à l'intérieur du parti. Mais chez les démocrates, ceux qui sont le plus actifs présentement, à l'exception peut-être de Gavin Newsom en Californie, c'est la gauche progressiste qui veut un changement de la garde, une relève de la garde et qui veut prendre le pouvoir. Donc, il y a une très, très grande pression de ces gens-là. Puis une victoire de Mme Denis, ça va apporter de l'eau au moulin. Moi, si j'étais un stratège, ce que je leur répondrais, c'est votre phénomène, Mme Denis, là, on est à New York, on est dans un État plus démocrate, il a gagné parce qu'on préfère généralement les démocrates à la mairie aussi, même s'il y a eu des républicains. New York, c'est pas effectivement la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, la Géorgie, l'Arizona. Donc, c'est ça qui est complexe aux États-Unis, c'est qu'on peut gagner très fort à un endroit, mais la recette, elle s'applique rarement, globalement, à l'échelle du pays. Et quand on fait une campagne à gauche aux États-Unis, on part forcément, historiquement, avec un handicap. On est au centre ou au centre-droit, c'est habituellement là où on a les meilleures chances de l'emporter.
Luc Laliberté, c'est toujours un plaisir. Un gros merci pour tous ces éclaircissements.
Bonne journée à toute l'équipe. Bonne journée aux auditeurs. Bye.
Salut, Luc. Je vous invite à lire le papier de Luc Laliberté dans le journal de Québec. Très bon papier. Les chroniqueurs en politique américaine pour le groupe québécois, ainsi qu'ex-enseignant en histoire des États-Unis. On a la chance de lui jaser une couple de fois par mois. Puis on aime bien ça. Il est 8h48. Il se passe quoi sur la route, mon ami?
Il se passe qu'il y a encore des pneus dans les voies. Là,
sur ça a l'air, ça s'est ramassé sur Champlain.
Oui, ben c'est ça. Henri IV Sud, auteur boulevard Laurier, à la base, c'est là que la perte de chargement est survenue. Là, pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est que voie de droite et voie du centre, c'est bloqué. L'accès à l'autoroute par boulevard Laurier, c'était partiellement entravé tantôt. Ça, semble-t-il que ce n'est plus le cas. On nous dit que la récupération des pneus est en cours.
Si vous avez passé un mauvais début de journée, là, pensez, si vous étiez ce gars-là qui avait perdu la vingtaine de pneus sur le pont Pierre-Laporte, à quel point ce serait pas une belle journée.
Ça se pneut pas, ça.
Ça se pneut pas, ouais, exactement. Ça doit être l'enfer. S'il se passe quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021.
Ouais, ben la 20 ouest est encore assez compliqué entre Chemin des Îles et le secteur des ponts. 73 nord, ça refoule encore jusqu'à Rubeau-Lieu. 20 est, ça va mieux. L'accident sur la 40 est dans le coin Saint-Augustin-de-Desmaures, bonne nouvelle, c'est terminé. Capitale ouest entre Henri Bourassa et un peu passé Laurentienne, toujours au rouge.
À ne pas manquer dans les prochaines minutes, gros bulletin de nouvelles de Max. On va parler de sport. Belle victoire du Canadien de Montréal. Demidov qui a encore fait des flamèches hier. C'était de toute beauté à voir sur le but gagnant. On vit.
Marceau le matin.